Madame, monsieur, chers collègues, bienvenue à la troisième conférence de mon cours sur l'Empire du droit. Je commence aujourd'hui avec quelques observations sur une œuvre d'Alberico Gentili, juriste du XVIe siècle. Dans la conclusion du texte original de cette conférence, on revient à la jurisprudence de la Renaissance sur le droit de la guerre, mais aujourd'hui, je laisse de côté ces remarques. Le travail extraordinaire d'Alberico Gentili, De Armis Romanis, prend la forme de deux discours. Le premier est un réquisitoire condamnant les injustices commises par les Romains en temps de guerre. Le second, une plaidoirie défendant la justice de ces mêmes actions. Il manque au travail une introduction ou une conclusion à la première personne, le lecteur est ainsi laissé sans guide pour savoir auquel destinée la palme de la victoire. Cela dit, Gentili n'écrivait pas dans un esprit d'indétermination postmoderne. Son souci était plutôt la critique des sources. Je suis dans l'obligation, affirme son premier locuteur, de considérer les récits qu'ils font de leur histoire comme suspects, car ils admettent ouvertement qu'ils étaient hostiles à tout ce qui se mettait en travers de leur chemin en ennemi des Romains. Comment peut-on faire confiance aux Romains lorsqu'ils proclament avoir respecté le droit de la guerre, n'avoir mené, selon leurs propres termes, que des guerres justes, quand on peut montrer qu'ils ont menti sur des questions fondamentales à propos de leur passé? Que pourrait-on conclure de la guerre et de l'impérialisme en général quand le plus exemplaire des empires éprouvait une telle honte de ce qu'il représentait? Gentili était beaucoup trop sophistiqué pour simplement accuser les Romains de fausseté. Au contraire, il apporte à l'analyse des sources anciennes nombre d'outils critiques dont certains ont clairement des analogues modernes d'importance. J'en citerai ici trois qui guideront sous une forme modifiée ma propre reconstruction et ma critique des institutions inventées à Rome pour faire passer dans les faits le principe du droit de la guerre. En premier lieu, dans sa lecture des textes anciens, Gentili distingue entre les récits nus des faits et les opinions qui lui sont ajoutées, et propose des mécanismes pour juger de la fiabilité et de la solidité de chacun. Chose importante, il n'accepte pas que l'on dise que sous les jugements portés par les Romains seraient sujets à caution, tandis que leur relation des faits serait digne de confiance. Au contraire, la comparaison des textes romains entre eux révèle un large éventail de désaccords sur l'information de base, et pour une part, cette confusion ne peut provenir que de l'invention. Que n'apprendrait-on pas si l'on avait davantage de sources carthaginoises ou de n'importe lequel des peuples avec lesquels les Romains sont entrés en conflit et en guerre? Mais je n'ai accès à rien de leur côté, dit Gentili. En second lieu, certes, Gentili acceptait plus ou moins que ce que nous trouvons décrit dans les sources romaines avait un caractère historique, en l'occurrence les structures conceptuelles et institutionnelles qui étaient à l'œuvre lorsqu'on se prononçait sur la justice des guerres, et particulièrement lorsqu'il s'agissait de déclarer des guerres qui soient justes et signer des traités qui soient honnêtes. Mais il savait reconnaître la prise que de telles structures donnaient à une manipulation partisane. Inventé par les Romains, l'usage que l'on faisait régulièrement de leur langage et de leurs règles était ouvertement auto-justificateur. On peut donner l'exemple des suites de la bataille des Forges Caudines, où les Romains contraignirent un de leurs généraux à se rendre à leur ennemi, uniquement pour qu'il donnât un coup de pied à un ambassadeur romain et que cette violation de jus gentium le permit de déclarer la guerre le plus justement qu'il fut. Mais ce ne fut là que le cas le plus fameux de ce genre. En troisième lieu, Gentili insista à plusieurs reprises sur le fait que les institutions le moins solidement attestées du droit international à Rome pourraient être éclairées par des catégories et des concepts de code civil. Le concept de restitution en est un exemple typique. Comme je vais le montrer dans un instant, une demande de réparation gît au cœur des déclarations de guerre romaine, et c'était l'échec des adversaires de Rome à leur donner satisfaction qui suffisait à faire de ces guerres des guerres justes. Mais alors que les sources romaines déployaient beaucoup d'efforts pour montrer que de telles demandes avaient été faites, reçues et refusées, elles n'abordaient jamais la question de savoir si les demandes elles-mêmes étaient recevables. Gentili conseille vivement d'avoir recours précisément en cette matière au concept de restitution tel qu'il existe dans le droit privé. Et c'est dans cette optique, comme y insiste son premier locuteur, les guerres romaines étaient tout sauf justes. Les intuitions de Gentili sur ces problèmes étaient superbes, et pourtant, des formulations modernes de ces réflexions, aussi bien que les méthodes que l'on doit mettre en œuvre pour les désigner, prendraient naturellement une autre forme. En ce qui concerne l'histoire du droit en particulier, deux tests modernes rapportés à la stratégie purement historique de Gentili, qui consistait à interpréter le droit international romain à la lumière du droit civil, méritent une attention spéciale. L'une vient de la critique des sources, l'autre est d'ordre historique. Les conclusions de la critique des sources peuvent être présentées de manière simple. Pour de multiples raisons, dont le moindre n'est pas leur incapacité à surreprésenter leur propre société à l'époque archaïque, à l'âge du bronze ou à l'âge de fer, les Romains avaient tendance à projeter dans leur passé lointain les institutions de la cité classique et ainsi à raconter les événements qui se déroulaient comme s'ils étaient déroulés dans le cadre de ces institutions. La thèse historique est plus complexe dans son argumentation et dans ses ramifications, mais on peut aussi la présenter simplement. Alors qu'à une époque, les spécialistes supposaient que beaucoup des institutions et de pratiques religieuses à Rome étaient restées dans leur état archaïque ou au moins avaient des racines dans quelques passés pré-Pauliades, aujourd'hui, certains, dont je suis, soutiennent au contraire que ce sont les institutions de la cité classique qui peuvent revendiquer la plus grande ancienneté, tandis que les institutions attribuées par les Romains à la haute antiquité sont souvent des inventions. Leur étiologie supposée simplement des tentatives partisanes destinées à légitimer l'innovation du présent en lui assignant des racines dans une antiquité vénérable. Il se trouve que le rituel dont les Romains prétendent avoir usé tout au long de leur histoire pour s'assurer que leur guerre était juste était précisément une institution de ce genre. Rarement attestée, sinon jamais, au cours des siècles, alors qu'elle était supposée gouverner les déclarations de guerre, mais solidement décrite par les historiens à l'extrême fin de l'époque de la conquête. Qui plus est, les Romains eux-mêmes et les spécialistes à leur suite l'ont comparé superficiellement à une action de droit civil, la loi dite « legis actio sacramento in rem », l'action légale conduite personnellement en revendication d'un droit de propriété sur quelque chose. Supposons que le rituel religieux était ancien et cependant évitant son explication précisément sur la base de son ancienneté énigmatique, les spécialistes usent de cette comparaison pour se contenter d'illustrer ce qu'ils auraient dû travailler à prouver, à savoir que les actions archaïques de droit civil dérivaient effectivement d'actions religieuses de droit public. Dans ce que suit, j'emprunte la voie montrée par Gentili en me demandant ce que nous pourrions apprendre, quelles questions nous pourrions être amenés à poser si nous nous refusions à prendre pour argent comptant les récits que racontent les Romains sur ce rituel. le rituel des prêtres officiaux, l'objet de la loi de même nom. Et si, au lieu de cela, nous soumettons ces récits à la critique. De plus, je suis gentilien enseignant également une priorité herméneutique, sinon historique, à la loi civile. Si, comme cela semble hautement probable, les Romains inventèrent, sur le modèle d'une action de droit civil parfaitement attestée, un rituel juridico-religieux destiné à déclarer les guerres, et le projetèrent rétrospectivement dans le passé, il nous appartient de nous interroger sur la lumière que cette action pourrait jeter sur la justice des guerres romaines et sur les relations qui, dans le monde romain, liaient le droit et l'empire. Réalité et fiction dans les récits des prêtres officiaux. Si nous nous tournons maintenant à la fois vers les données dont nous disposons pour les lois de la guerre et vers les récits des Romains à leur sujet, ces sources seront mieux expliquées si nous en donnons deux descriptions. La première nous dira comment les Romains comprenaient ces lois. La seconde est en relation avec les critiques de sources dont il a été question plus haut. Quand même, si nous en venons à considérer ces récits romains comme des produits de l'invention de la République, la forme de ces inventions est cependant un objet d'une très grande importance historique, en particulier pour l'histoire du droit de la guerre en Europe dans les périodes suivantes. L'histoire que les Romains racontaient avait plus ou moins deux parties. L'histoire que nous reconstruirions deux de plus. C'est-à-dire que les Romains eux-mêmes décrivaient leur loi de la guerre comme ayant un seul point d'origine et comme ayant subi une unique révision, en se tenant strictement en données organisées en relation avec les périodes qu'ils décrivent et sans se soucier de leur fiabilité. Nous pouvons trouver la description de deux schémas supplémentaires également significatifs dans les circonstances dans lesquelles on fit appel à ces lois aussi tardes que l'époque d'Auguste à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. En premier lieu, les Romains affirmaient qu'en un certain point du 8e siècle avant Jésus-Christ, un bon demi-millénaire, en d'autres termes, avant que, selon leur propre estimation, l'écriture historique fut pratiquée pour la première fois à Rome, les Romains adoptèrent un bloc d'un peuple voisin, les Aequicoli, un prêtrise chargé de la supervision de la piété dans les affaires internationales. Dans un récit à la forme quasiment canonique, un roi romain décida que son peuple manquait de quelque chose, en l'occurrence, une quelconque contrainte de leur instinct agressif. Et donc, il emporta une pratique, ou plutôt une prêtrise, venue d'ailleurs. Il n'y a pas de trace de ce conte avant le 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais, à ce moment-là, il fut largement célébré. L'empereur Auguste fit même à l'aventure aequicolienne de la loi faciale l'honneur d'une statue sur son forum. Comme nous le verrons, il avait des raisons d'agir ainsi. La juridiction des prêtres faciaux, et par là de jus fétial ou droit facial, comprenait trois champs, dont seulement deux, la déclaration de guerre et les signatures des traités, sont assignés par notre source tardive à cette période très haute. La troisième champ, sauvegardant la sacralité des ambassadeurs, figure largement dans des comptes rendus des guerres samnites. J'ai cité plus haut la discussion de Gentili à propos de ces événements. Me tournant d'abord vers le rôle joué par les faciaux dans la signature des traités, j'ai placé dans le handout, passage 1, la description que fait Tite-Live de la pratique des faciaux des premiers temps. Je ne lis pas le passage de Tite-Live à haute voix, cependant, dans ce qui suit, je vais faire allusion aux œufs et j'espère que les détails essentiels seront précisés dans l'exposition. Au sujet de ces textes, je vous convie à faire les remarques suivantes. Dans le passage A, Notez la relation de Synecdoque avec les Sagmina qui proviennent de Capital et le Sol, la matière de Rome elle-même. Dans le passage B, notez-le, il est stipulé que les violations d'un traité n'ont de sens qu'en relation avec l'état d'esprit de la gente, c'est-à-dire qu'on se demande si le peuple romain agit avec ou sans préméditation. C'est un problème de grand intérêt pour Gentili. Dans le passage C, remarquez d'abord la curieuse adresse métonymique aux frontières en lieu et place de peuple, et ensuite la juxtaposition de termes à connotation juridique, religieuse et morale, fas, juste, pie, fides. Dans le passage D, faites encore deux remarques. D'abord, la supposition, visible aussi dans le passage A, d'une analogie stricte entre les institutions des partis en conflit. Des deux côtés, on trouve un dictateur, un pater patratus, et ainsi de suite. Remarquez ensuite que la pureté et la piété d'une guerre semblent être la conséquence directe du refus de la partie adverse d'accéder à l'interprétation romaine de la situation. Cela signifie que le fait qu'une guerre soit juste dépend entièrement, non d'une affirmation de légitimité de l'exigence romaine, mais seulement de la réponse de l'ennemi à ses exigences. Et enfin, dans le passage E, notez d'abord la ritualisation de la violence sous la forme d'un jet de lance, non pas une substitution de la violence réelle, mais pour insérer rituellement la guerre elle-même entre deux bandes jumelles. La fermeture viendra quand le même collège de prêtres recevra l'ordre du magistrat dont c'est le rôle de foedus ferire, de conclure un traité. Et remarquez aussi la manière dont la déclaration de guerre est conçue comme le point final mis en processus de rerum repetitio, l'exigence qu'il soit retourné des choses dues ou de réparation pour dommages. Selon les sources romaines, le rituel facial connut un changement notable au cours de la longue histoire de la guerre à Rome. Ce changement a eu lieu au début du 3e siècle avant Jésus-Christ, quand Rome commença à mener des bella transmarina, des guerres outre-mer. À ce moment-là, il devint sans objet d'envoyer une telle succession de délégations à l'ennemi, particulièrement la dernière consacrée au jet de lance. J'en viendrai plus loin à une description détaillée de changements apportés en réponse à ce problème, mais pour résumer, ce que les Romains sont supposés avoir fait est ceci. Avoir demandé à un prisonnier de guerre d'acheter de la terre à Rome, de façon à créer sur place un secteur de territoire théoriquement hostile et en conséquence planter leur lance à l'intérieur. Sur l'histoire des fessions en particulier, mais aussi sur les lois de la guerre et plus généralement sur les suites de ce changement, les sources sont à peu près muettes. Cela ne veut pas dire que Rome ne partit pas en guerre, ne conclut pas des traités, ne participa pas aux disputes juridiques de la communauté internationale de toute cette période. Mais on ne trouve guère mention ni des fessions ni d'aucune conception supra-poliade ou supra-étatique des normes de justice dans les affaires internationales, ni, plus important encore, aucune citation d'aucun contenu spécifique d'une code de loi de cette sorte. Puis, d'une manière plutôt surprenante, après avoir été absente même des sources romaines, pendant quelques deux siècles, les fessiaux émergent à nouveau au milieu du premier siècle, d'abord dans les manches des textes littéraires des années 50 et ensuite dans l'Europe probablement, concluant un traité en 38 avant Jésus-Christ. La source de cet événement, une traduction grecque d'un document romain officiel, ne peut offrir de certitude définitive car il n'y avait pas de correspondance fixe entre la terminologie grecque et les institutions romaines, même à cette date tardive. Finalement, les Éphésiens apparaissent dans toute leur gloire, déclarant la guerre dans les événements qui menèrent à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, quand les forces du futur empereur Auguste, associant Rome, l'Italie et l'Ouest, entrèrent en guerre contre Antoine, Cléopâtre et les dieux à forme animale d'Égypte. Cela dit, Auguste n'était pas le seul à s'efforcer de légitimer moralement et légalement une action d'utuse en invoquant des lois religieuses. Il est clair que Tite Live, exact contemporain d'Auguste, réécrivit l'histoire de la pratique guerrière de Rome à la lumière de cette préoccupation, et l'outil principal de cette réécriture fut l'introduction rétrospective d'Ephésios dans des situations pour lesquelles nous n'avons aucune source attestant de leur implication, et selon toute apparence, pour lesquelles lui-même n'avait aucune source. Cela dit, même si à l'évidence les Romains n'ont disposé d'aucun mécanisme pour faire passer dans les faits des principes déterminants de la justice et la piété des guerres, il n'est pas sans importance qu'ils aient fini par en arriver à penser qu'ils auraient dû en avoir quelques-uns. Mais la raison pour laquelle le rituel fessiel devrait réaliser cette fin n'est pas due toute évidente non plus. Quelle justice était servie par les récitations formelles des demandes de réparation? La lecture faite plus haut est-elle correcte selon laquelle le vote sur la guerre reposait seulement sur la question de savoir si l'ennemi avait satisfait à cette exigence, plutôt que sur la justice de l'exigence elle-même? Quel droit était satisfait par la ruse juridique qui consistait à vendre de la terre romaine à un soldat étranger? Ces questions sont également significatives et les réponses également élusives si nous acceptons la facticité des proclamations des Romains en ce qui concerne l'origine et les actions des prêtres fessiaux à la période achaïque. Pour donner une réponse, je suis le chemin montré par Gentili, pour ainsi dire, en me tournant vers une action de droit civil comparativement bien attestée, je cherche à extraire de la logique de cette performance une clé avec laquelle comprendre la place de la loi fessiale en particulier et plus généralement le droit international à Rome. La Legis Actio Sacramento in Rem. Comme je l'ai déjà observé, la procédure fessiale destinée à déclarer la guerre dispose d'un important comparendum dans une ancienne action légale connue sous le nom de Legis Actio Sacramento, c'est-à-dire l'action conduite via sacramentum, sous serment. Les ressemblances entre les deux actions sont tellement frappantes, à la fois sur la forme et sur la fonction, qu'on a généralement cherché à établir entre elles une relation généalogique, mais on n'a pas tenté de les comparer pour les faire s'éclairer l'une l'autre. En réalité, dans sa majorité, l'opinion a plus ou moins assumé sans réfléchir, dans ce cas comme dans d'autres, qu'une action de droit civil devait dériver d'une action d'État ou d'une action religieuse, en dépit de tout ce qui m'y semble fournir largement la preuve de contraire. Dans ce qui suit, je souhaite établir la comparaison sur deux aspects, entre les rites sur leur forme ancienne, ou plutôt dans ce que nous est représenté comme leur forme ancienne, puis entre les changements apportés aux rites et la manière dont déjà dans l'Antiquité, on interprétait ces changements. Selon Gaius, auteur d'un manuel du droit romain du milieu du 2e siècle après Jésus-Christ, la Legis Actio Sacramento était une action générale à laquelle on pouvait avoir recours lorsque aucune autre action ne convenait. Elle avait deux fonctions de base, in rem et in personam, selon qu'elle concernait des objets ou des personnes. Ainsi que concerne les objets, le plaignant réclamait la propriété d'un objet en possession de l'accusé. Dans le cas mettant en jeu des personnes, le plaignant déclarait que l'accusé devait donner, faire quelque chose ou en reprendre. Hélas, il ne nous reste qu'une seule description de la Leges Actio Sacramento, celle des Instituts de Gaius, et la section des actions in personam est perdue. Et ce qui est plus crucial, d'après ce que nous savons, l'action paraît avoir été destinée justement à offrir une opportunité de recourir à la loi à ceux qui n'avaient pas de preuves pour soutenir le plainte. Ceci affecte non seulement la procédure suivie que les conséquences de la solution apportée. La description produite par Gaius est le passage 2 dans le handout. Si l'action était in rem, les biens meubles et ce que se mouvait par eux-mêmes, pourvu que l'on puisse les apporter ou les conduire au tribunal, étaient revendiqués au tribunal de la manière suivante. Le revendicant ramassait une festuca, une baguette, et poignait la chose elle-même, une esclave par exemple, et s'exprimait ainsi. J'affirme que cet être humain m'appartient par droit créditaire, selon son propre titre. Comme je le déclare à toi, j'ai revendiqué ma propriété. Et en même temps, il posait sa baguette sur l'esclave. Son opposant déclarait et faisait les mêmes choses de la même manière. Quand chacun avait déposé sa revendication, le prêteur disait « Lâchez l'être humain tous les deux ». Il le laissait aller. Celui qui avait revendiqué le premier disait « J'exige que tu dises à quel titre tu as revendiqué ». L'autre répondait « J'ai exercé mon droit en déposant ma revendication ». Alors le premier plaignait disait « Du moment que tu as injustement revendiqué une propriété, moi, je te défie par un sacramentum de 500 ans ». Son adversaire, de son côté, s'exprimait de la même manière « Et moi, toi ». Je vous convie à faire trois observations sur ce passage. En premier lieu, c'est la matière qui semble compter. La déposition de la revendication, le langage de la force selon l'étymologie ancienne, prenait la forme d'une adresse à l'adversaire accompagnée d'un contact physique avec la propriété qui fait l'objet du conflit. Aucune représentation n'était admise en substitut. À cet égard, la dépendance à l'égard de la matérialité à l'œuvre dans la forme archaïque de la Leges Actio Sacramento reflète celle qui était opérante dans le rituel fécial pour la conclusion des traités, dans lequel le prêtre emportait une poignée de sol romain avec des pousses d'herbe, des racines et tout ce qui allait avec, jusque sur le lieu où le traité devait être conclu. En second lieu, l'absence de preuves crée une dynamique dans laquelle le plaignant et le défendeur observent une équivalence de procédure méticuleuse. Le défendeur dit et fait et adem similiter, les mêmes choses de la même façon, ou répondent et ego te, et moi toi. Comparé avec le parallélisme souligné par Tite-Liv, toujours dans son compte-rendu de la conclusion des traités, passage en B, les Albans prononcèrent leur propre commune et leur propre serment par l'intermédiaire de leur propre dictateur et leur propre prêtre. En conséquence, le perdant subissait plus que la perte de la propriété en cause. Il était aussi jugé coupable de parjure. Tel pourrait sembler, dans de nombreuses procédures légales, une suite logique du verdict, c'est-à-dire que le témoin de la partie perdante disait des choses qui, dans la réalité créée par le verdict, se trouvaient devenir contraires à la vérité, quoi qu'elles aient été auparavant. Mais il était rare que cette suite fût réellement exploitée. Mais virtuellement, le régime de preuve de la Legis Actio Sacramento l'exigeait, comme la revendication des deux parties était en dernier ressort fondée uniquement sur le sacramentum, le serment recevait une forme concrète dans le sang rituellement déposé, et parce que le fait de perdre révélait que le perdant avait prêté un faux serment, il était coupable de falsum, un son dépôt de garantie, également désigné à la période classique sous le terme sacramentum par une métonymie banale communément pratiquée, revenait au trésor d'État. Perdre dans la legis actio sacramento en venait ainsi dans l'imaginaire juridique romain à symboliser la perte la plus totale du process, de sa propriété et de la face. En troisième lieu, la compréhension de ce qui était en jeu dans l'action civile clarifie la nature du rituel fécial, avec son ambassade élaborée aller-retour, sa demande de réparation et sa prescription des périodes d'inaction durant lesquelles l'adversaire de Rome pouvait examiner ses options. Il en avait deux. Se rendre totalement, ce qui signifiait l'accomplissement de réparation dans les conditions que Rome avait stipulées. Dans la Legis Actio Sacramento, l'équivalent serait rendre la Rem et ne pas enclencher le rituel et donc ne pas avoir à offrir le sacramentum. Ou faire la guerre et risquer le tout pour le tout dans une contestation. En d'autres mots, nous sommes conduits une fois de plus à voir que l'action sacerdotale qui prenait la forme d'une ambassade menée par le prêtre fécial, entrait dans le jeu uniquement lorsqu'une issue violente, fatale, était devenue probable et exigeait une légitimation. Au sein de la communauté juridique unitaire de la cité, cependant, le recours au serment et au dépôt de garantie au sacramentum effectue un déplacement pour lequel une troisième partie, les dieux, sont momentanément attirés dans les disputes. En conséquence, le potentiel de violence qui pourrait toujours menacer la stabilité d'une décision simplement juridique était légalement et symboliquement contenu. La violence de la décision par laquelle une partie perdait la face et pouvait être dépossédée de ses biens mettait le gagnant hors d'attente de perdant en donnant l'existence à un nouveau réseau en serrant le perdant, les dieux et les communautés, dans un mouvement qui cependant le stabilisait en même temps qu'il le créait. L'acte originaire qui avait donné naissance à la dispute, quel qu'il pût avoir été, qu'il y eut infraction ou non, cède le pas devant l'annonce du verdict par jour, et la retention du sacramentum par l'État crée l'expiation dans l'acte même de clôture qui scelle la restitution. Dans cette perspective, nous pouvons voir que la festuca de la legis actio sacramento, la baguette, un morceau de bois qui n'était ni taillé ni ferré, comporte deux significations. Elle était considérée, comme le dit Gaius, quasi hastae loco, comme si elle était à la place d'une lance, la lance étant le symbole de la propriété légale, car ils croyaient avoir un droit de propriété légale spécialement sur les choses qu'ils avaient conquises sur un ennemi. C'est pour cette raison qu'une lance est exposée en évidence dans le tribunal des Quintumviri. Gaius esquive la question parce que, comme sa remarque l'éclaire, le meilleur symbole d'une lance est une lance. Et les tribunaux romains ne montraient aucune gêne à produire des lances pour symboliser le pouvoir et leur juridiction. Mais l'usage du sacramentum dans le legis actio sacramento exigeait que la vengeance ne fût pas interprétée comme un acte de violence. Le langage de la force qui mimait les plaignants et les défendants n'était même pas dirigé de l'un contre l'autre. C'était plutôt des gestes en direction des dieux. Une telle interprétation du rite semble bien se dissimuler derrière les mots d'Olugel, essayiste du second siècle après Jésus-Christ, dans le commentaire remarquable qu'il écrivit presque en même temps que les instituts de Gaius sur l'expression ex iure manum concertum, saisir dans les mains selon la loi. Odugel avait besoin de comprendre la phrase parce qu'elle apparaissait dans les annales du poète de début du second siècle avant Jésus-Christ, Ennius. Olugel soutient que cette expression se réfère à l'action in rem des douze tables dans laquelle, comme dans la Leges Actio Sacramento, la propriété elle-même était apportée au tribunal et rituellement époignée. En conséquence, selon son interprétation, Ennius construisait une polarité dans laquelle l'action légale et l'action martiale sont taxonomiquement reliées comme deux sortes de vices, deux sortes de violence, bien que Ennius n'en mentionna qu'une. En outre, Olugel formule cette interprétation dans un vocabulaire qui tire son symbolisme justement de la Leges Actio Sacramento. Je vous renvoie au passage 3. Il semble avoir parlé ainsi pour comparer une violence guerrière et sanglante, oui, bellica et cruenta, avec la force civile et festucaria, c'est-à-dire la force juridique et du bâton, qui s'exprimait par des mots et ne s'opérait pas par les mains. Ainsi, le rituel festiel n'était pas conçu pour empêcher la violence sauvage, loin de là. Sa fonction était plutôt d'inaugurer des guerres qui fussent, en termes romains, purum piumque. Il reste à faire l'investigation des connexions tracées par les commentateurs anciens du rituel entre les guerres que les prêtres festiaux rendaient pieuses et pures et les guerres justes. La justice de qui? Quel dieu? La question n'est pas pour pédanterie. Par exemple, dans la description que donne Titli de la Devotio de Decius, un rite par lequel un général faisait vœux d'autodestruction et appelait les dieux à détruire l'ennemi de la même façon, Decius conclut l'invocation qui ouvre sa prière en décrivant les dieux qu'il a nommés comme dieux dont le pouvoir embrasse à la fois nos ennemis et nous. Et comme nous l'avons vu, la description que donne Tite Livre du rituel festiel ancien suggère sans surprise qu'il ait été fondé sur la supposition implicite que les ennemis aussi avaient des fessiaux, que leur langage et leurs gestes seraient immédiatement intelligibles. Mais la présupposition du parallélisme ne peut pas avoir tenu longtemps. C'est dans les modifications du rituel que ces présuppositions se sont effondrées et dans l'interprétation de ces modifications que nous pourrions chercher une réponse. Et c'est par la triangulation avec les autres rituels et leur exigence que nous devrions trouver notre voie. Comme je l'avais noté plus haut, l'emendatio la plus fameuse au rituel fessio et celle attribuée aux premières années du IIIe siècle avant Jésus-Christ, quand les Romains entreprirent de mener pour la première fois un transmarinum bellum, une guerre outre-mer. La description la plus complète que nous en ayons est celle produite par la commentateur de Virgile du IVe siècle après Jésus-Christ, Servius. C'est le passage 4 sur la handout. Quand à l'époque de Pyrrhus, les Romains furent sur le point de déclarer une guerre à un transmarinum ostem, à un ennemi d'outre-mer, et ne pouvaient trouver d'endroit où faire accomplir par les fessiaux ce rituel pour déclarer la guerre, ils contraignirent un des soldats de Pyrrhus, qui était prisonnier, à acheter un morceau de terre près du cirque Flaminius, de façon à ce qu'il puisse déclarer la guerre conformément à la loi Cassi in hostili loco, comme s'ils étaient en territoire étranger. Deux traits ressortent de cette compréhension. En premier lieu, en ce qui concerne le rituel lui-même, remarquez que Remarquez ce que nous pourrions appeler le fort nominalisme du rituel romain et du langage juridique. La charte formelle symbolique de terre par un prisonnier de guerre suffit à créer le territoire ennemi. L'effectivité du langage d'un rite de vente crée ainsi une nouvelle réalité, sans tenir compte de l'état mental de partenaire ennemi, qui ne pouvait pas avoir été d'accord, bien qu'il fût sans intention criminelle. En second lieu, la catégorie « territoire ennemi » dans le langage de Servius est violemment abstraite du particulier. Dans la description que donne Tite Livre du rite original, c'était l'ennemi du moment qui devait être prévenu, et l'exigence qu'il y avait à la prévenir n'était satisfaite que lorsque trois hommes de ce peuple en âge de se battre avaient entendu la déclaration. Sur un point de fait, ce changement apportait à la pratique faciale à une corrélée dans le legis actio sacramento. Car comme nous l'avons vu, les plaignants avaient recours à l'actio aussi pour revendiquer la propriété de choses mal commodes ou impossibles à déplacer, à la manière dont on pratiquait à cet égard peut être comparée à la loi faciale sous différents aspects. Il y a d'abord la logique du rituel lui-même que, comme Gaius le fait clairement apparaître, repose sur l'usage de la synecdoque, les parties des objets en litige représentant le tout des mottes pour la terre ou de la laine pour la bétail. C'est le passage 5. Si l'objet en litige était tel qu'on ne pouvait l'apporter ou le conduire au tribunal, par exemple, si c'était une colonne ou un bateau ou un troupeau d'animaux, on pouvait en prendre une partie que l'on apportait au tribunal, et la revendication pouvait porter sur cette partie comme s'il s'agissait de l'objet entier. Le second point de comparaison repose non pas tant sur la logique ou des composantes du rituel, mais dans l'interprétation du rituel fait par ces exégètes de la période classique. L'interprétation la plus notable est située non dans la littérature jurisprudentielle, mais chez Olugel, qui s'y trouva incapable de comprendre la logique qui liait la formulation d'une revendication, l'imposition des mains et la présence de l'objet presque absent. C'est le passage 6. Mais plus tard, après que les frontières de l'Italie se furent étendues, les prêteurs eurent davantage de sujets de préoccupation en matière juridique et ils devinrent réticents à voyager pour aller entendre des revendications sur des objets éloignés. En conséquence, il fut décidé par ce tacite agrément que, contrairement aux douze tables, les plaignants ne se saisirent pas de l'objet en présence du tribunal devant le prêteur, mais qu'ils convoqueraient en saisie dans la main selon la loi. C'est-à-dire qu'un plaignant convoquerait l'autre sur le lieu de l'objet en litige pour une saisie dans la main selon la loi. Étant allé au même moment dans la chambre en question, il apporterait au retour quelques morceaux de terre, une motte par exemple dans la cité, dans le tribunal, et ils prononçaient leur revendication sur cette motte, comme si c'était le champ entier. Ce que Olugel ne peut comprendre, ce n'est pas le besoin que l'objet en litige lui-même soit revendiqué. Il comprend spontanément le besoin que la revendication d'un objet doit être faite par l'intermédiaire d'un contact physique avec l'objet lui-même. C'est plutôt le réalisme, pour ainsi dire, que sous-tend le synecdoque de la motte pour la terre qu'il trouve incompréhensible. Il n'y a évidemment aucune preuve que cette synecdoque soit une accrétion à une phase antérieure d'une pratique rituelle dans laquelle la matérialité de l'objet et la justification étaient en réalité respectées. Mais le sentiment d'Olugel est que tel a dû être le cas, d'autant plus qu'il étiquette le bricolage de la partie pour le tout contre duodecem tabulas, contrairement aux douze tables. En fait, l'explication qu'il avance pour ce changement rappelle aussi l'histoire du rituel festiel, sinon sa réalité, du moins certainement son historiographie. Car comme ces écrivains qui postulaient un changement en réponse à la pratique nouvelle des guerres outre-mer, ainsi Olugeo comprend-il qu'on a modifié un rituel dans le droit en réponse aux nouvelles réalités géographiques et pratiques de l'État roman grandissant. En ceci, les arguments de Gaius et d'Olugel s'harmonisent avec les anciennes visions standards de l'histoire juridique. Dans la formulation abrégée de Pomponius, augiscente civitate, comme la communauté civique grandissait, deerant quaedam genera agendi, on trouva que quelques types d'actions légales manquaient. Qui plus est, comme Olugel lui-même le soutenait dans un autre essai, le laps de temps très long qui s'était écoulé, depuis l'écriture des 12 tables, a plongé dans l'oubli le langage et le coutume de l'Antiquité. Et c'est à la lumière du langage et des coutumes que le sens des lois est compris. Ainsi, en alla-t-il, aux environs du milieu du 2e siècle après Jésus-Christ, que la logique d'un ancien rituel, dans sa forme et dans son langage, dans leur efficacité à faire exister une réalité cohérente et ensuite à agir sur elle, était en train de glisser hors de l'intelligibilité. Sensible aussi à ce qui les séparait d'un autre état dans lequel cette logique était claire, Gaius et Olugel posaient comme postulat que cette distance était principalement chronologique et il n'était pas si déraisonnable de leur pensée. L'expression la plus condensée de leur incompréhension devant l'identisme que se manifeste dans ces rituels ne réside même pas dans leur insistance sur le fait qu'il y ait remplacement par des substituts, que le festuca est utilisé hastai loco à la place de la lance. Elle se situe plutôt dans leur sentiment que cette explication n'est pas en fait adéquate. Donc, ce que Gaius affirme, c'est que la baguette est utilisée quasi hastai loco, comme si elle était à la place de Nantes. Le lupin de terre près du cirque Flaminius fonctionne quasi in hastai loco, comme si elle était un territoire ennemi. Les revendications sont faites in eam partem pro inde atque in totem rem presentem, sur la partie comme s'il s'était sur la totalité du champ. Conclusion de diverses sortes. Quand le pater patratus créé par le fessial annoncé, au cours de son serment, scellant un traité que seules des actions commises avec préméditation devraient compter ou compteraient comme des violations à proprement parler, et que seules elles s'attiraient des représailles de la part de Dies Piter, comment se représentait-il la procédure de la détermination de la préméditation? Était-ce un standard reconnu du droit international? Y avait-il un code pour juger en la matière? L'autre partie engagée dans le traité ou la transaction avait-elle son mot à dire? Pour ce qui est de la détermination des dispositions d'esprit, on peut présumer que la tâche en encombre à la communauté alors que les dieux invoqués dans le rituel festial étaient supposés se satisfaire du jugement de la communauté. Ce n'était pas là, il est important de le noter, une attente implicite de la religion romaine mais un pilier central de sa pratique. C'est réifié dans les réglementations de culte, telles qu'elles sont préservées dans les textes documentaires et littéraires, surtout dans la forme des impératifs de la troisième personne. Quelles que soient les erreurs qui aient pu être perpétrées, tamen probe factum esto, malgré tout qu'on les tienne pour avoir été accomplis comme elles doivent l'être. La déclaration légale fait exister une réalité particulière, au moins pour ceux qui appartiennent à la communauté qui considère ce langage comme efficace. L'empressement que mettaient les dieux de Rome à se trouver liés par un tel langage était tenu comme le signe principal de leur citoyenneté et de leur bonne volonté. Selon cette interprétation, les standards selon lesquels les Romains s'attendaient à être jugés dans leurs décisions, et de même les Romains qui conclurent le traité avec les habitants d'Albe, étaient des standards romains et les dieux des dieux romains. Mentionnons qu'aucun dieu d'Albe n'est cité comme témoin de l'enseignement romain. Comprise telle qu'elle a été vécue pendant la période classique, et non uniquement pour ce qu'elle peut ou ne peut pas révéler sur le passé lointain, la Legis Actio Sacramento suggère une autre façon de comprendre la loi faciale. Il faut aussi rappeler combien peu nous savons sur la conduite de l'action en pratique. Les traits qui attiraient l'attention des antiquaires et des juristes aussi bien ne concernaient ni la manière, la fréquence, les buts, ni les conditions pratiquées de son usage, mais simplement des aspects de sa forme. Nous ne savons pas quelle sorte de preuve ou de plaidoirie les parties présentaient, ni par quelle voie les juges arrivaient à leur décision. L'insistance que l'on mettait à ce que le perdant parjura son sacramentum se fonde sur deux hypothèses, que les parties n'apportaient pas de preuve autre que leur serment, quoi que cela signifie, et que chaque partie était désireuse de gagner. Qu'en serait-il si aucune des deux hypothèses ne tenait? En cherchant à comprendre la place de la baguette dans le contexte de l'action, Gaius invoquait le symbolisme de la lance. Elle signifiait propriété, écrit-il, car ils pensaient avoir la propriété légale en particulier des choses qu'ils avaient prises sur un ennemi. Laissons de côté le problème qu'ils n'avaient aucune autorité pour asseoir cette affirmation. Comme toutes les fictions de situations originelles ou d'états de nature, le monde dans lequel de telles croyances avaient cours était un pur postulat logique. Comme beaucoup de postulats de cette sorte, il a probablement plus souvent été invoqué par le fort contre le faible que le contraire. Dans ce cas, la propriété des objets saisis en guerre pouvait bien n'être que la forme la plus pure de la propriété liée à un titre légal. En ce sens, la mainmise sur un bien pendant une guerre reflète la reddition et correspondent véritablement à la création d'un titre de propriété pour jugement dans un process. Voilà est en fait l'explication qui, je suggère, de la survivance à l'époque classique de la Legis Actio Sacramento. Action légale dans la forme de procédure était sinon dépassée. Car ce qui est implicite chez Gaius, c'est que des parties y ont recours quand aucun d'entre eux ne peut prouver la propriété, déficience qui était justement rectifiée à l'issue du process. Ce que ni lui, ni Olugel ne traite sérieusement, c'est que cette déficience de titre de propriété était en fait un handicap à la vente qui pouvait être corrigé par la justice. La question à laquelle, en fonction de l'état actuel des sources, nous ne pouvons pas apporter de réponse, et cela. Quel était le destin de dépôt du pardon si celui-ci plaidait sans trop de conviction? L'utilité de la Legis Actio Sacramento comme mécanisme pour la création et le transfert d'un titre de propriété dépend de la réponse. Cela dit, une telle interprétation de la Legis Actio Sacramento pointe très précisément sur l'utilité et aussi les limitations de la loi faciale, car elle servait, et je maintiendrai qu'elle fut inventée pour cela, en imitation directe de l'action de droit civil, elle servait à satisfaire l'exigence éthique et morale que les Romains s'imposaient à eux-mêmes. Mais nous ne devrions jamais oublier que l'exigence était cadrée et le degré de leur satisfaction apportée par les Romains eux-mêmes. En conclusion, je cite le fascinant paragraphe final du chapitre remarquable de Bellis sur la guerre de Isidore de Séville, étymologie. C'est le passage 7. La guerre est faite de quatre choses: combat, fuite, victoire et paix. Le terme paix semble venir de pactum, pacte. Mais la paix est conclue plus tard. Un foedus, un traité, intervient d'abord. Un traité est une paix faite entre des parties en guerre. Il dérive de fides, confiance, ou de fétiales, c'est-à-dire les prêtres de son homme. Car c'est par leur intermédiaire que des traités sont faits, juste comme des guerres sont faites par des circulares, par des profanes. Il se trouve que, malgré tout son savoir, Isidore m'est utile surtout à cause de ses erreurs, qui sont de deux sortes. Certaines sont factuelles. Parmi celles-ci, la plus importante dans ce passage est une erreur d'omission, car les prêtres fessiaux sont des instruments non seulement de la fin des guerres, mais aussi de leur début. D'autres erreurs résident dans le royaume de préjugés de base. L'affirmation la plus importante de cette dernière sorte est l'assertion qu'à Rome, les traités étaient faits par des prêtres, mais les guerres par des circulares. Lu de cette façon, Isidore nous offre une perspective parmi d'autres sur la rupture, visible dans différentes manières, à différents moments de l'histoire européenne, entre l'attente de ce que la religion et le droit entre toutes les institutions humaines de jouer un rôle dans la contrainte de la violence et la réalité historique dans laquelle cette attente est déçue de différentes manières. Dans le Rome du milieu et de la fin de la République, cette attente est généralement formulée par le biais de la discussion de l'un des deux sujets qui lui étaient reliés, le débat sur la légalité ou la prudence d'actions spécifiques dans les affaires étrangères d'une part, et le débat sur les investigations dans la pratique et les doctrines, ou lois, comme l'aurait dit le Romain, des prêtres fessiaux de l'autre. Que le droit fessiel n'ait existé à Rome à l'époque de la conquête, si tant est qu'il ait jamais existé, que comme un aspect de discours sur la guerre à usage interne, est parfaitement mis en lumière par le récit de son amendement au temple de guerre outre-mer. Ce conte expose non simplement la soumission du droit religieux au processus d'abstraction et de manipulation en vogue dans la loi séculaire, mais la conséquence de sa description en tant que loi, car le changement décrit par Servius comportait deux révolutions conceptuelles. Dans l'une, un soldat capturé sur l'ennemi du moment achetait de la terre et ainsi une exigence stricte, formelle, était remplie, que le territoire ennemi dans lequel le fessier plantait sa lance appartenait effectivement, selon la lettre de la loi, à l'ennemi particulier auquel les Romains déclaraient la guerre. Mais à moins que nous ne croyions que chaque conflit en soldat différent achetât cette terre, les fessiers durent rapidement se résoudre à un bricolage, pratique qui apparaît avec les Rusuls comme typiquement romaine, c'est-à-dire à l'abstraction de la catégorie territoire ennemi à partir de particuliers multiples. Selon cette lecture, même en mettant entre parenthèses l'interprétation de la Rerum Repetitio présentée plus haut, il est difficile d'éviter la conclusion que les standards éthiques, que les soi-disant lois de la guerre étaient destinées à atteindre, étaient ceux des Romains seuls, et loin d'une quelconque aspiration moderne à ce que le droit de la guerre en lui-même pût contraindre ou prévenir la violence. Dans le cas de Rome, l'application de la loi n'avait pas pour conséquence l'évitement de la violence, mais la fuite des responsabilités. Merci pour votre attention.
Merci.